le 7-9.
La revue de presse, donc, Claude Askolovitch. Claude, ce matin, on parle d'une plaque.
Qui était posée 45 rue de Plaisance à Paris, a été enlevée hier, dit le Parisien, par les services de la mairie. Elle rappelait qu'un écrivain nommé Guy Hockenheim avait vécu dans cette maison. Le nom de cet homme, mort du sida en 1988, ne dira pas grand-chose aux moins anciens. Il fut pourtant une figure d'intense liberté dans l'ébullition des années 70, un homme de lumière quand les homosexuels devaient vivre dans l'ombre. Il avait animé un front homosexuel d'action révolutionnaire. Il était journaliste à Libération dont il contestait de l'intérieur les dérives libérales. Un de ses livres jouissivement méchants s'appelait « Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary ». Il était un romancier que Pivot invitait. Il avait écrit et filmé avec trouble et talent les méandres et l'histoire du désir homosexuel. Mais dans une époque déstructurée, Hockenheim théorisait aussi des libertés que nous savons désormais insoutenables contre les féministes de Libé. Il défendait les rapports sexuels entre adultes et enfants et s'étonnait qu'on puisse poursuivre les violeurs puisque la prison était une oppression. Il poussait ses erreurs, il fut le reflet, le symbole d'un temps révolu. Une biographie l'avait ranimé il y a 3 ans. Allez lire en ligne de bons papiers de Libération et de Slate pour méditer sur ce qui reste d'un homme et de ses colères. En janvier dernier, ça on le lit dans Le Parisien, la mairie de Paris a posé une plaque sur son ancienne demeure. C'était en soi une idiotie, tant Hockenheim était inapte à l'apaisement. Il avait même fini par mépriser le soulagement embourgeoisé des homosexuels après la dépénalisation votée par la gauche. Après l'affaire Matzneff, sont revenus ses mots sur la pédophilie. Un collectif féministe a aspergé de sauce tomate la plaque de la rue de Plaisance et apeuré, la mairie l'a donc déposée pour ne plus jamais la réinstaller. Le Parisien interroge des riverains, ils se disent choqués. Franchement, rendre hommage à un pédophile, non, dit Mina, qui ne sait rien d'un homme annulé après avoir été célébré. L'annulation et la célébration témoignent de la même inculture. Un autre homme est mort avant-hier à Venise qui lui contestait son époque, la nôtre, avec virulence, drôlerie et culture. David Graeber avait l'air de tomber du lit avec sa coiffure ébouriffée, lige dans Libération, mais cet Américain était un savant, un grand anthropologue passionné par Madagascar et qui se réjouissait, lige dans l'Obs, de la sexualité prolifique des femmes malgaches qui comblaient les pirates d'antan. Il voyait dans la flibuste l'anticipation de nos libertés. Graeber était aussi un maître à penser pour les jeunes gens que notre monde blesse. Il avait démoli le dogme de la dette qu'il faudrait rembourser. Il avait exposé l'inflation bureaucratique du capitalisme. Il avait pointé l'atroce ridicule des boulots inutiles, les bullshit jobs bien payés qui ne servent à rien, confortent le libéralisme mais ruinent l'estime de soi de ceux qui les pratiquent. Il avait accompagné un mouvement contestataire à New York en 2011 et inventé ce slogan opposé aux maîtres du monde « Nous sommes les 99% ». Vous trouverez un excellent portrait de Graeber sur le site de Libération et d'excellentes archives ressorties par l'Obs, Le Monde et Mediapart. Graeber pensait que les riches ne peuvent pas s'intéresser aux autres et contre eux vantait le mérite de ceux qui nous protègent, les soignants notamment. Il semble prophétique après la crise du Covid et en même temps vaincu, car Graeber meurt, lui qui émène aux gilets jaunes et moquait le sérieux d'Emmanuel Macron quand Le Figaro, Le Parisien, Le Dauphiné et d'autres anticipent le discours sur la République que va prononcer tout à l'heure le chef de l'État pour le 150e anniversaire de son rétablissement. Il s'agira d'autorité.
Et on parle de la police, Claude, également.
Et d'une autorité dont abusent des fonctionnaires à la fois émouvants et perdus de violences impunies. On lit ces policiers dans Le Monde qui publient les bonnes feuilles d'un livre nommé Flic, l'enquête en immersion d'un jeune journaliste, Valentin Gendreau, embauché comme adjoint de sécurité dans un commissariat de Paris, qu'il raconte de l'intérieur, adoucissant la brutalité qu'il constate par une sympathie qu'il éprouve pour ces flics qui sont comme lui de province et ressemblent à ses copains de foot. Mais le costaud Charlie raconte trop bien les histoires de prisonniers laissés la gueule en vrac et de la serpillière qu'on passe pour absorber le sang. Parle-t-on du même pays, du même peuple français qu'honore Jacques de Bonnet, dont l'histoire illumine la voie du Nord? Il est à 93 ans le dernier survivant du réseau de résistance qui donna son nom au journal. Il avait 17 ans au moment de la défaite et de l'exode et fut hébergé chez une baronne de Haute-Cloque, cousine du futur maréchal Leclerc. C'est chez elle que Jacques entendit l'appel du général de Gaulle qui lui retourna le ciboulot. Et de retour chez lui, il entra dans la résistance. Il allait dans les bars à soldats allemands repérer des Alsaciens enrôlés de force qu'il était, qu'il aidait à déserter. Il connut la prison. Je vous laisse lire le journal et bientôt un livre, mais pour le plaisir ceci. En 1943, un juge qui aurait dû le condamner à mort ne lui infligea qu'une petite peine de prison, car ce magistrat était encore sous l'effet d'une orgie partagée avec des prostituées à Lille. Les mauvaises mœurs ont décidément bien du talent.
On parle enfin, Claude, d'un magnétiseur.
Qui était septuagénaire, grand et fort, avait une bonne tête et des cheveux grisonnants, et dont la femme parfois faisait des tartes aux fruits dans la cuisine quand il recevait ses patients dans son cabinet à Tonnet-Boutonne, en Charente-Maritime. victime. Mais raconte Sud-Ouest, à la fin des massages et des passes qui soulagent la douleur, il aurait pénétré des femmes avec son doigt sexuellement et le traumatisme envahit ses victimes. Le violeur présumé est en prison. Il aurait autrefois agressé sa petite fille. Le village de 1100 habitants frémit de silence, de peur, de pudeur ou de honte. La perversion n'est pas une vue de l'esprit. Dans Libération, j'en termine, on découvre un autre visage soumis à tentation et hanté de secrets. Montézic en Aveyron, 250 habitants, a reçu 14 millions d'euros en héritage d'un mystérieux Bernard Millot qui demande simplement qu'on entretienne la tombe de sa famille. La manne bouleverse le bourg et attise la jalousie environnante, mais plus troublante encore est la raison du legs. Millot, en enrichissant Montézic, voulait simplement empêcher que le fisc ou son ancienne épouse ait accès à sa fortune. Peut-on aimer ce que nous offre la mesquinerie?